Ce matin, pour commencer, on va prendre trois lectures. Dans le livre des psaumes, on va en prendre deux. Psaume 34, donc, d'abord. Psaume 34, verset 7. C'est un verset qu'on connaît par cœur. Peut-être pas la référence, mais si je vous dis le début, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. » Psaume 125, verset 2 maintenant. Vous allez comprendre où c'est que je veux en venir. Psaume 125, le verset 2. C'est une constatation géographique qui est faite. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi, l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Amen. Zacharie maintenant. Le prophète Zacharie, au chapitre 2 et au verset 5, il va parler, prophétiser sur Jérusalem également. Quand on lit Zacharie, à certains moments, on a l'impression d'être dans l'Apocalypse. Je ne sais pas si ça vous l'a fait. C'est la même chose pour Ézéchiel, pour Ésaïe parfois. Et là, on est vraiment dans ce moment où Zacharie a une vision de Jérusalem et une prophétie qui est donnée sur cette ville. Dieu qui dit « Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour ». Et je serai sa gloire au milieu d'elle. Amen. Le verset central, c'est celui qu'on a lu au milieu, c'est-à-dire que l'Éternel entoure son peuple de la même manière que des montagnes entourent Jérusalem. Et en plus, il le dit, dès maintenant et à jamais. Dès maintenant et à jamais, ça veut dire que c'est encore valable pour nous maintenant. Le psaume a été écrit il y a plusieurs milliers d'années en arrière, mais c'est pas grave. Parce que la parole du Seigneur, elle demeure. Savez-vous que la position géographique de Jérusalem, particulièrement au temps de David, la cité de David, pas la Jérusalem d'aujourd'hui, mais la cité de David de l'époque, il y avait cette réalité d'être totalement entouré de monts. Alors, ils appellent montagne dans les psaumes. Aujourd'hui, les géographes appellent ça des monts. Mais c'est pas grave, c'est cette réalité qu'il y a du relief. Et de toute façon, vous regardez des images de Jérusalem, si vous avez la chance d'y être allé, vous l'avez constaté par vous-même, que la ville de Jérusalem est entourée de reliefs. Et on compte parmi ces monts, le mont Morija, le mont des Oliviers, le mont Sion, le mont Scopus, le mont de Golgotha, le mont Ophel. Alors il y a des noms qui sont plutôt latins, mais en hébreu ils ont aussi leur sens. Mais ce n'est pas le point ce matin. En tout cas, c'est une réalité géographique, mais qui est une image spirituelle pour nous, parce que l'Éternel dit, de la même manière que Jérusalem est entourée de montagnes, moi je vais entourer mon peuple. Et Zacharie précise, Dieu va être comme une muraille de feu tout autour, mais ce n'est pas fini, avec sa gloire mise au milieu, à l'intérieur. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Que l'Éternel nous entoure et qu'il mette sa gloire. La semaine dernière, on voyait ce psaume 63 qui dit « Seigneur, je veux contempler, je veux voir ta puissance et ta gloire. » Mais le Seigneur nous dit « Pour le faire, pour le réaliser, il faut se laisser entourer, il faut se laisser environner. » C'est cette image du vase. Plus les bords, le contour du vase va être haut, plus on va pouvoir le remplir. S'il n'y a pas beaucoup de hauteur, ben le niveau du contenu va être très petit. Si l'Éternel entoure, nous donne du contour à notre foi, à notre vie, à notre cœur, alors il va pouvoir mettre son onction, sa puissance. J'avais vraiment cette parole sur le cœur, je l'ai formulée comme ça, selon ce que je ressentais, Dieu veut élever le niveau de notre foi, de notre amour, de notre paix, de son onction sur notre vie. Mais pour le faire, il faut qu'il nous entoure. Et ce qui est merveilleux, c'est que sa parole nous dit, sa parole nous explique de comment être entouré et de quoi le Seigneur veut nous entourer. Dieu désire remplir son Église de sa gloire, mais il faut se laisser environner de sa présence. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Psaume 32 pour commencer. Donc ça, c'était que la mise en bouche. C'était que les apéritifs. Psaume 32, verset 6, on passe au contenu. Je ne sais pas si vous connaissez le psaume 32, ça fait partie des psaumes merveilleux. Il n'y a que des psaumes merveilleux, hein. Vous l'avez remarqué. Mais le psaume 32, verset 6, alors, lisez à la maison, et réellement, faites-le, lisez à la maison le psaume 32, en entier. On va commencer nous au verset 6, mais vous allez voir la profondeur. On comprend quand on lit les psaumes la profondeur de la foi de David. David avait une foi incroyable. Il n'avait pas la Bible comme nous pour comprendre certaines choses. La Pentecôte n'était pas là, même s'il avait le Saint-Esprit qui était là. On le ressent dans ce psaume. Il avait une compréhension de la présence de Dieu et de cette relation avec Dieu incroyable. Et il peut dire qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Amen. Pour que nous puissions avoir la gloire de Dieu qui soit au milieu de nous, il faut que nous soyons entourés de chants de délivrance, environnés de louanges. Il faut que nous laissions notre vie baignée, être imprégnée de cet état d'esprit de rendre à Dieu la gloire et l'honneur. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, il faut rendre à Dieu la gloire. Il n'y a pas d'autre chemin, c'est comme ça, c'est obligatoire. Mais nous comprenons dans ce psaume qu'avant de pouvoir parler de la louange, avant de pouvoir parler du bienfait de la louange, il faut parler d'autre chose de plus sérieux encore. Et c'est justement là où les versets 1 à 5 sont intéressants, et je vous invite vraiment à le faire à la maison. Mais quand nous prenons à cœur ces choses, alors nous pouvons dire ce verset 7, « Tu es un asile pour moi ». Tu me garantis de la détresse. Garantie, ça veut dire tu m'assures. J'ai une bonne assurance spirituelle quand j'ai la foi dans le Seigneur. Beaucoup mieux que toutes les assurances sur la terre. Sur la terre, il faut justifier qu'on a eu un problème. Il faut prouver qu'on a eu une difficulté. Il faut faire plein de démarches. Avec le Seigneur, c'est pas ça. Par la foi. Seigneur, tu me garantis de la détresse. Il y a des eaux qui débordent. Il y a des temps difficiles, il y a des épreuves. Vous savez, les eaux qui viennent comme ça, en grondement, c'est l'image du jugement. C'est l'image des difficultés. C'est l'image de l'épreuve. Mais dans ces moments-là, le Seigneur permet à ceux qui le suivent de ne pas être débordés. Ça vous arrive d'être débordé? Débordé par les circonstances? Débordé par tout ce qui se passe? La vie qui file et qui défile, on n'arrive pas à la rattraper, on est débordé. Mais le Seigneur ne veut pas qu'on soit débordé. Il veut qu'on soit entouré de chants de délivrance, environné de louanges. J'aime cette image-là. Comme une muraille de feu quand je choisis de louer le Seigneur, quand je choisis de proclamer son nom, même si je vois rien qui a changé, je suis en train de bâtir une muraille de feu, enfin de laisser le Seigneur la bâtir, hein, mais mettre cette muraille de feu autour de ma vie, afin que sa gloire puisse venir sur moi. Mais avant de pouvoir rentrer dans cette dimension de la louange, il faut comprendre c'est quoi la prière en question. Parce qu'il a dit, ainsi, tout homme pieux ou tout homme fidèle te prie. Qu'est-ce que c'est que cette prière dont il parle? Qu'ainsi on te prie. Et c'est les versets d'avant. Et si vous lisez les versets d'avant, je vous le dis quand même un petit peu. Je spoil un peu. Les versets d'avant, c'est la repentance. Quelqu'un qui a discerné dans son cœur combien le péché était là. Il y avait un combat, il y avait un combat entre la chair et l'esprit dans son âme et pas de repos tant qu'il ne confesse pas son péché. Il y a une lutte au fond de lui. Il explique que même ses os sont en train de se consumer jusqu'à ce qu'il, enfin, il avoue son péché à l'Éternel. Ça, c'est quelqu'un qui est sensible au Saint-Esprit. Des fois, on voit quelqu'un qui est sensible au Saint-Esprit, on voit que l'aspect de la puissance. Mais la première chose, et là où le Seigneur va utiliser quelqu'un en tout premier, c'est quelqu'un qui est sensible au Saint-Esprit dans le domaine de la repentance. Le Saint-Esprit nous convaincra de pécher. Pas qu'on doit pécher, mais la formulation, c'est qu'il nous montre en nous qu'il y a du péché, afin de nous purifier, afin de nous laver. Quand c'est la dernière fois que le Saint-Esprit vous a montré quelque chose a changé? C'est quand? Ne dites pas. Mais dites-le à vous-même. Si ça remonte à plus d'un an, vous pouvez vous inquiéter. Parce que le Saint-Esprit, il veut avoir une communion avec nous de jour après jour, instant après instant. Et jour après jour, on marche sur ce chemin de sainteté et il nous permet de nous faire grandir. Mais il faut avouer son péché. Il ne faut pas retenir, il ne faut pas cacher quoi que ce soit. Le Seigneur est celui qui nous aide. Et il est question de faire cette prière au temps convenable. Littéralement, c'est au temps où l'on le trouve, où on peut le trouver? Est-ce que quand on est menacé par un tsunami, c'est à ce moment-là qu'on commence à réparer la roue de la voiture qui est crevée, en se disant « je vais l'utiliser pour fuir ». Alors que le tsunami est au-dessus de la tête, on est en train de changer la roue. C'est ça? Mais non. Le bon sens dit « sois prêt, on ne sait jamais s'il y a un risque de tsunami, sois prêt en tout temps, même si c'est la nuit, il faut que tu sois prêt ». Et avec le Seigneur, on se permet peut-être de laisser les choses couler un peu, et c'est pas grave. Et il y a les eaux qui débordent, les eaux qui viennent autour de nous, ah, et à ce moment-là, « Seigneur, au secours, Seigneur, je vais réparer la roue ». Non. Au temps convenable, quand j'ai fait le mal, quand le Saint-Esprit me montre quelque chose, à ce temps convenable, j'avoue mon péché, et le Seigneur vient m'accorder son pardon. Et ensuite, ma louange, elle va avoir de l'épaisseur. L'épaisseur de la louange de quelqu'un qui a connu la repentance, c'est quelque chose quand même. C'est facile de louer le Seigneur, juste du bout des lèvres, mais c'est pas ce que Dieu attend de nous. Dieu attend cette louange qui soit l'expression de notre cœur et qui soit véritablement la réalité de ce que nous vivons. C'est facile de chanter « Seigneur, règne en moi, maîtrise mon cœur, Seigneur » le dimanche matin, c'est facile, hein ? Et le lundi, c'est la chair qui règne, le lundi, c'est les pensées qui dominent, c'est la volonté personnelle qui fait tout le boulot. Est-ce que c'est ça que Dieu veut ? Non. Alors bien sûr, c'est un combat. C'est facile de laisser la chair régner, mais si on a compris que le bon combat de la foi et le Saint-Esprit nous aident dans ce combat, marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si on rentre dans ce combat-là, notre louange va avoir du poids. Notre louange va avoir cette épaisseur qui fait que même si le tsunami des problèmes va venir sur nous, on sera entouré de chants de délivrance, entouré de louanges, entouré d'actions de grâce. D'ailleurs, il y a un verset qui le dit très bien. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec... » Oh, il y a un petit... La cerise sur le gâteau. « Avec des actions de grâce, avec de la louange. » Je ne suis pas que dans la prière, « Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi cela, Seigneur. » Non, non, avec des actions de grâce. Parce que j'ai compris que c'est comme une muraille de feu autour. Et qu'est-ce qui se passe après? Ben après, le Seigneur vient, la gloire du Seigneur vient, la paix du Seigneur qui dépasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Je le crois. Je le crois véritablement. Mais nous devons apprendre à louer le Seigneur avec cette profondeur, ce fondement de la repentance, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, je crois que c'est David même qui le dit, la louange sied au cœur droit, aux hommes droits. La louange, elle va bien avec quelqu'un qui a le cœur droit. Et le psaume 32, verset 1 à 5, nous montre comment retrouver le cœur droit si ce n'était pas le cas. Quelle grâce le Seigneur nous donne. Mais quand nous avons fait cela, quand nous le faisons au temps convenable, alors tu es un asile pour moi, alors tu me garantis de la détresse, alors tu m'entoures de champs de délivrance, et alors il peut y avoir des eaux qui débordent, il peut y avoir les circonstances compliquées, il peut y avoir un acharnement de l'ennemi, c'est pas grave, moi je suis gardé et protégé. Quand nous sommes dans cet état d'esprit de louange, nous ne voyons plus le problème comme un problème, mais nous voyons les grandes eaux comme une occasion de voir la puissance de Dieu. Amen. Ça change tout quand on voit les choses comme ça. Quand on voit le tsunami, on dit « Ah, j'ai hâte de voir comment le Seigneur va faire quelque chose ». On ne sort pas tout de suite les gilets de sauvetage, les canots et tout ça. Non, non. Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire ? Seigneur, je m'attends à toi. Et avant même que tu fasses quoi que ce soit, je te loue, je te bénis. Un autre psaume nous dit « Tu sièges au milieu des louanges de ton peuple, d'Israël ». Nous louons le Seigneur, nous décidons de le louer, quelles que soient les circonstances. Il y a cette muraille qui est là et le Seigneur dit « Moi je siège là où il y a la louange. Moi je viens m'asseoir sur ce trône de louange qui est exprimé par mes enfants, par ceux qui me recherchent. » Je vous ai déjà parlé du Sadhu Sundar Singh, cet apôtre du Seigneur en Inde. Un jour, il est allé annoncer l'évangile au Népal et ces gens n'aimaient pas qu'on leur parle d'une autre religion ou quelque chose qui était contre leur religion. Et ils lui ont dit « Tu es ici sans la permission du roi ». Et alors il leur a dit « Mais moi, je n'ai pas pas besoin de la permission de votre roi, j'ai la permission du roi des rois ». Très bien, alors si ton roi t'a envoyé, voyons comment il va te sauver. Et ils l'ont enchaîné Ils l'ont mis des ceps aux mains et aux pieds. Ils lui ont enlevé tous les vêtements et ils ont mis des sangsues partout sur son corps, qui étaient en train de lui sucer le sang. Voilà ce qu'il était en train de vivre. Et ils lui ont dit encore, eh bien, si ton roi t'a envoyé, voyons comment il va te sortir de là. Je ne sais pas si on aimerait être à sa place. Et les premiers temps, la première demi-heure même, il dit, mais je souffrais horriblement. La douleur, et je pensais qu'à mon malheur, je pensais qu'à ma détresse. Et puis à un moment donné, par la grâce de Dieu, j'ai fixé mes regards sur le Seigneur. Et une paix commençait à descendre sur mon cœur. Mais les circonstances étaient les mêmes, mais la paix de Dieu était là. Et tellement la paix de Dieu était là, il s'est mis à chanter des cantiques. On avait l'impression que c'était Paul et Silas dans la prison, vous savez, à Philippe. Chanter des cantiques alors qu'ils sont emprisonnés. Des cantiques de louange. Il disait, naturellement, je n'ai pas une belle voix, mais là, le Seigneur m'a donné une belle voix, je chantais. Et ce qui s'est passé, c'est qu'autour de la prison, plein de gens venaient écouter. Ils venaient écouter les chants de cet homme. Et c'était au point qu'à un moment donné, les gens sont allés voir le roi. Et ils se sont plaints, ils ont dit, mais il faut faire quelque chose parce que maintenant qu'il est en prison, il touche plus de monde que quand il était libre. Du coup, le roi a dit, allez, on te libère. Et dans la prison, il a quand même eu l'occasion de rencontrer un homme qui lui a dit, mais à quoi ça sert que tu persistes dans ta voie? Tu es en prison et ton Dieu ne peut pas te sauver. Et cet homme a dit, mais par la grâce de Dieu, je suis libre. J'ai la paix de l'âme que tu ne possèdes pas. J'ai une paix surnaturelle. Et alors que cet homme donc, a été libéré, le Sadou a été libéré, quelques temps après, il a rencontré l'homme qui était en prison. Et cet homme, entre-temps, il avait réfléchi. Il a dit, mais comment un homme peut vivre une telle supplice et être en paix? Et il a été interpellé par son témoignage. Et les gens disaient, oui, mais il est fou, oui, il n'a pas toute sa tête. Et il a dit, mais un fou peut-il être tellement heureux? Alors s'il est fou, je veux être aussi fou que lui. Je veux la même folie. Et je désire ça, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux que je rencontre. Et cet homme est venu voir le Sadou, il a dit, pardonne-moi pour tout ce que je t'ai dit en prison. Et le Sadou lui a dit simplement, si tu veux trouver le pardon, va au Seigneur Jésus. C'est lui qui va t'accorder la vraie paix, le vrai pardon. Et cet homme, quelques temps plus tard, a donné sa vie au Seigneur et s'est fait baptiser et a servi le Seigneur. Tout ça, ça s'est passé dans une prison, avec des sangsues au milieu, avec des conditions totalement inconfortables. Mais des chants de délivrance étaient là et entouraient l'enfant de Dieu. Et je crois que c'est une réalité pour chacun de nous. Dieu ne nous délivre pas toujours de la manière dont on l'entend, mais Dieu nous délivre toujours, ça c'est une certitude. À nous de laisser la louange, la gloire et l'honneur du Seigneur retentir dans nos bouches pour qu'il puisse être célébré. À nous de prier au temps convenable, à nous de laisser le Seigneur entourer nos vies de chants, de louanges. On va au psaume 32 toujours, mais au verset 10. Regardez ce qu'il est dit encore. De quoi le Seigneur veut nous environner pour que nous voyons sa gloire? Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse, poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. On revient dans ce qu'on a dit tout à l'heure. Et souvenez-vous, c'est que la fin du psaume qui a un début. Droits de cœur, par la repentance. Mais ensuite, alors que nous faisons le choix de suivre le Seigneur, il nous environne de sa grâce. Combien, ça paraît une expression banale, mais combien ceux qui y ont goûté savent combien c'est profond. Environné de la grâce de Dieu. Environné de sa grâce. Dans le psaume 5, il y a la même pensée qui est là. Tu bénis le juste, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Le Seigneur nous protège, le Seigneur nous environne de sa grâce. Le Seigneur, c'est comme s'il a ses mains autour de notre vie. Et rien sur la terre ne peut nous nuire sans qu'il ne l'ait permis, parce qu'il est le Tout-Puissant et parce que nous lui faisons confiance. Mais encore une fois, il y a un choix. Encore une fois, il y a une décision. La foi, c'est une succession de décisions pour le Seigneur. Et si on fait la décision pour nous, ben on s'écarte de la foi et on a besoin de revenir. Mais là, le choix, c'est entre la douleur, beaucoup de douleur sans la part du méchant, ou alors être environné de la grâce de Dieu. Qu'est-ce que vous préférez? Beaucoup de douleur ou être environné de la grâce de Dieu? C'est facile le choix, hein? Mais oui, c'est facile. Mais la parole de Dieu, c'est simple, hein? Sauf que souvent, on se trompe de choix quand même. Parce que la conséquence, on la veut, mais on ne veut pas la condition. Pourquoi ou comment le Seigneur permet que nous soyons environnés de sa grâce? Mais il est dit, celui qui se confie en l'Éternel. Qu'est-ce que c'est se confier en l'Éternel? C'est ce que nous dit les versets précédents. Vous savez, la Bible, elle s'explique toujours par elle-même. Le verset 8 nous dit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. C'est ça, se confier en l'Éternel. Est-ce que vous vous laissez facilement instruire? Oui, je vais à l'école, oui, j'ai fait des études, j'ai eu bac plus 7. Non, non, c'est pas ça que je parle. Est-ce que vous vous laissez instruire par le Seigneur? Est-ce que vous vous laissez instruire par la parole? Est-ce que vous le laissez vous diriger? Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Est-ce que quand vous avez des choix importants, que ce soit pour les études, le travail, la maison, la voiture, peu importe, mais des choix importants, pas pour savoir quelle couleur de cravate je vais choisir, mais des choix importants dans nos vies qui ont des conséquences. Seigneur, tu vas me montrer la voie que je dois suivre. Hier, j'ai eu l'occasion d'aller au mariage de la fille de Jean-Claude et de Nicole, donc qui s'est mariée hier. Elle a trouvé un Parisien qui va nous l'enlever, mais c'est pas grave parce qu'elle est vraiment, dans le témoignage, ils ont partagé leurs vœux. Et ce qui était merveilleux, c'est combien on voyait qu'ils aimaient le Seigneur. Même dans leurs vœux, ils ont déclaré, confessé leur foi en Dieu d'abord, avant leur. Bien sûr, il y avait des moments, les larmes, il y avait tout ce que vous voulez, les mouchoirs qui étaient de sortie parce que c'était émouvant, cet amour qui était là. Mais on voyait deux personnes, un homme et une femme qui ont dit, Seigneur, je veux que tu me montres la voie que je dois suivre. Et le Seigneur leur a montré, et le Seigneur les a unis, et on s'est réjouis, et on a pleuré, et on a chanté, et on a ri. Bref, tout ça. Mais combien c'est bon quand on laisse le Seigneur nous montrer la voie que nous devons suivre. Combien c'est bon quand on écoute les conseils. Je te conseillerai. Savez-vous que le Seigneur nous conseille? Il nous a laissé un grand livre de conseils. Les mille et un conseils pour suivre le Seigneur sont là, et même plus. Mais savez-vous que parfois le Seigneur emploie des conseillers annexes des êtres humains? Et en fait, il fait beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Et sauf que quand c'est le Seigneur qui nous parle directement, là on accepte, mais quand c'est les conseillers humains, là on dit, ah mais non, ils sont humains, ils sont charnels, donc on n'écoute pas. La Bible dit, le salut est dans le grand nombre de conseillers. Combien c'est important d'avoir des conseillers précieux. Alors, ce n'est pas question d'en avoir 50, mais c'est surtout des conseillers de valeur. Auprès de qui vous cherchez des conseils pour votre foi? Auprès de quelle personne? Ça, c'est important. Et comment vous réagissez quand on vous donne des conseils? Je peux vous dire par expérience, alors je n'ai pas une énorme expérience en tant que pasteur, mais je peux vous dire que souvent les gens qui n'écoutent pas les conseils, ils vont à la catastrophe. Par expérience, on leur donne des conseils, presque parfois. Je me souviens une fois, j'ai supplié une dame, alors qu'elle posait problème dans l'église. Je l'ai suppliée de rester parce qu'elle prenait une mauvaise direction. Elle déménageait à l'autre bout de la France. Et c'était dans des conditions totalement insensées. Et moi, j'avais tout intérêt à ce qu'elle s'en aille. Mais je peux vous dire devant Dieu que je l'ai suppliée de ne pas le faire. Parce que je savais que ce n'était pas mon conseil de lui dire de partir. Elle avait besoin de rester. Mais elle n'a pas écouté. Résultat, 3 mois après, Pasteur, venez me chercher, venez me chercher. J'ai dit, mais ma soeur, je peux pas, c'est pas possible. À l'autre bout de la France. Oh, mais voilà, il y a ceci, il y a cela. Y a ce... Mais je vous l'avais dit, ma soeur, écoutez les conseils. Et ça fait peine, hein? Mais si c'était arrivé qu'une fois, je ne vous en parlerai même pas. Mais ça arrivait à combien de fois? Quand on donne des conseils, on n'est pas là pour reprendre les gens avec méchanceté. Mais c'est pour le bien de la personne. Franchement, si les gens, on ne les connaît pas, on ne se permet pas de donner des conseils. Mais quand on les aime, quand on les apprécie, justement, on essaye de prendre soin d'eux. Et le Seigneur nous donne cette capacité aux uns aux autres. Je parle des pasteurs, mais ce n'est pas que les pasteurs. Dieu met des frères et des sœurs à côté de nous, avec qui on partage et qui sont là comme des conseillers. Et quand on dit, Seigneur, oui, je veux que tu me conseilles, attendez-vous à ce qu'un frère ou une sœur vienne vous voir et vous dise une remarque. Mais oui, c'est leur réponse à la prière. Seigneur, viens me conseiller, Seigneur, viens me montrer ta volonté. Mais il va le faire. Hein. Mais acceptons-le après. Acceptons que le Seigneur nous parle. j'aurai le regard sur toi. Dans tout ce que je vis, même quand il y a les eaux qui sont là, qui veulent se déchaîner sur ma vie, le Seigneur dit, j'aurai le regard sur toi. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les temps d'épreuve, quels que soient les temps de maladie, quels que soient les temps de relations difficiles avec des personnes au travail, peu importe tout ça, j'aurai le regard sur toi. Oh, combien je suis béni quand je pense à cette réalité. Quand je suis tout seul dans ma chambre, mais que personne ne me voit, personne ne sait ce qui se passe à l'intérieur, je sais par contre que le Seigneur aura son regard sur moi. Et c'est pour ça que je suis après environné de sa grâce. Amen. Oh, j'avais un troisième point, mais je ne veux pas aller jusque-là. Je veux juste terminer ce chapitre avec le verset 9, qui est un conseil, justement. On vient de parler de conseil. Là, c'est le Seigneur qui les donne, c'est pas moi. Vous allez écouter quand même ? Ne soyez pas comme un cheval. Alors, c'est bien, c'est le Seigneur qui parle, hein, d'accord ? C'est pas moi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare, afin qu'il ne s'approche point de toi. Oh, un conseil. Et vous pouvez le dire à votre voisin, ne sois pas un mulet. C'est ça le conseil, non? Je vous ai dit, c'est pas moi, c'est le Seigneur qui... Mais ça veut dire quoi? Ne sois pas entêté. Hein, le mulet, c'est... Il veut aller là-bas, il y va. Il veut pas y aller, il y va pas. Il s'assoit, on fait tout, on pousse, il veut pas. Non! Ne soyez pas comme un cheval ou comme un mulet sans intelligence. Et on arrive quand même à les maîtriser avec des mors, avec des brides, etc. Particulièrement le cheval. Mais est-ce que vous savez que quand on est obligé de nous mettre des brides et des mors, mais souvent celui qui tient les rênes, c'est pas le Seigneur, hein, dans ces moments-là. Le Seigneur, il nous tire pas par les rênes. Allez, tu vas me suivre, c'est comme ça et comme ça. Non, le Seigneur, c'est par des cordages d'amour qui nous attire. Mais celui qui tient les rênes, quand on se laisse poser les rênes, c'est l'ennemi de notre âme. Quand on choisit de dire, Seigneur, j'ai pas besoin de toi, je me débrouille tout seul. J'entendais encore, il y a quelques temps en arrière, il y a pas longtemps, une sœur qui m'a dit, avec regret presque, elle me disait, il y a eu cette époque dans ma vie, j'aimais le Seigneur, mais quand ça concernait les domaines hors de l'Église, c'était moi qui prenais mes décisions, c'était moi qui faisais ma volonté, et aujourd'hui je paye les conséquences de ça. Et alors, elle était pas malheureuse, parce que Dieu avait guéri son cœur, mais elle constatait les choses. Elle disait, mais oui, je... Elle me disait, mais comment j'ai pas compris que Dieu, il faut le mettre partout dans notre vie. Dieu, c'est pas le dimanche matin. Dieu, c'est pas à l'église. Dieu, c'est pas juste quand on rencontre des croyants. Mais Dieu, c'est toute la vie. Dieu, c'est 24 heures sur 24. Dieu, c'est quand on est dans l'église, mais c'est quand on est dans la voiture, mais c'est quand on est dans la maison, au travail, peu importe l'endroit. Nous devons aimer le Seigneur et le servir et le suivre et faire nos choix en cherchant la volonté de Dieu. Et on sentait quand même qu'il y avait une pointe de regret par rapport aux conséquences qu'elle était en train de vivre, cette dame. Mais la question qui se pose, c'est qui c'est qui a les rênes de notre vie? Seigneur, prends ma vie. C'est ce qu'on chante, hein? Sers-toi de moi, Seigneur, prends ma vie. Je t'abandonne tout ce que je suis, Seigneur, parce que j'ai compris. J'ai compris combien c'est dangereux de faire les choses par soi-même. Je veux pas, Seigneur, qu'on m'amène par-ci ou par-là, que la chair me conduise, et qu'elle m'emmène loin de ce que toi tu me proposes, je veux être environné de ta grâce. Frères et sœurs, on va s'arrêter là pour la prédication. Mais le Seigneur nous appelle pour que sa gloire soit manifestée dans nos vies. C'est quelque chose qui est d'abord personnel, mais c'est ensuite quelque chose qui est une décision aussi collective pour une église. Des hommes et des femmes qui décident ensemble de dire « Seigneur, entoure-moi de chants de délivrance. Seigneur, entoure-moi, environne-moi de ta grâce. » Le Seigneur va venir déverser sa gloire sur nos vies, sur nos familles, mais aussi sur notre Église. Et c'est ce que nous désirons, je le crois. Alors, simplement, ayons conscience que le Seigneur est là par son Esprit. Ce matin, on va incliner les têtes, fermer les yeux. Le Seigneur est là par son Esprit. Mais le Seigneur peut s'arrêter à la porte d'un cœur. L'Apocalypse nous le dit clairement. À la porte même d'une église. Le Seigneur peut être arrêté. Et nous ne voulons pas que ça soit le cas. Et nous voulons dire, Seigneur, viens, entre. S'il y avait quoi que ce soit qui bloquait, s'il y avait une porte et des verrous qui étaient là, Seigneur. Oh, que ton Saint-Esprit nous le montre et que ton Saint-Esprit le fasse exploser. Mais Dieu ne forcera jamais la porte. Il attendra que nous le voulions et que nous lui demandions. David a dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Mais j'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et il proclame, tu as effacé la peine de mon péché. Nous allons prendre dans quelques instants la Sainte Cène en réalisant les douleurs qu'a dû traverser notre Seigneur. Mais cela a été l'occasion pour le Seigneur de nous libérer de la peine de notre péché. Et ce que le Seigneur désire, plus que nous le désirons même, c'est qu'il soit autour de nous comme une muraille de feu et que sa gloire soit à l'intérieur. Qui ce matin veut dire, Seigneur, je veux vivre cette réalité, je veux que tu entoures ma vie de champs de délivrance, je suis en train d'être submergé, je suis en train d'être débordé par les circonstances, Seigneur. Il y a telle ou telle situation qui est là, qui me pèse, je n'ai aucun contrôle dessus, Seigneur, c'est plus grand que moi. Mais tu m'entoures de champs de délivrance, tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse. Qui veut dire, Seigneur, je me confie en toi et je suis environné de ta grâce. Ô Seigneur, tu vois nos cœurs ce matin, tu connais, tu sais, Seigneur, la réalité de ce qu'il y a au fond de nos cœurs. Et nous voulons être de ces hommes et de ces femmes, de ces jeunes hommes et de ces jeunes filles qui décident, Seigneur, de se laisser entourer par toi, qui décident de donner l'épaisseur à leur louange en te priant de tout leur cœur, avec repentance si besoin, avec larmes, s'il y a lieu, au temps convenable, afin que tu, Seigneur, nous entoures de chants de louange et que tu viennes habiter par le Saint-Esprit en nous, Seigneur, avec puissance et avec gloire. Seigneur, tu connais les situations des vies. Tu connais là où il y a besoin d'intervention surnaturelle. Tu sais là où les docteurs ont dit, ça prendra tant et tant de temps, Seigneur. Mais toi, tu as un autre planning. Toi, tu as un autre timing, Seigneur. Et nous voulons regarder à toi. Nous voulons regarder à ces opportunités de voir ta puissance et ta gloire, Seigneur. Renouvelle le cœur de mes frères et de mes sœurs ce matin. Renouvelle mon cœur. Renouvelle notre Église. Renouvelle nos vies, Seigneur, nous voulons que cette église soit entourée d'une muraille de feu. Tu sais les attaques de l'adversaire. Tu connais, Seigneur, les tentatives, Seigneur, pour intimider. Tu sais, Seigneur, les forces ténébreuses qui agissent dans cette ville. Mais nous sommes, Seigneur, sous la protection de ta lumière. La lumière chasse les ténèbres. Et nous n'avons rien à faire si ce n'est de nous confier en toi. Merci, Éternel. Merci parce que tu es ce Dieu-là, dans lequel nous pouvons nous confier pleinement. À toi l'honneur, la gloire et la louange. Amen.